Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan et Jean-Philippe, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on est aussi rejoint par notre ami David Brodeur, qui, initialement, je pense, vous étiez rencontré à la paroisse de Jonathan à Montréal, c'est bien ça?
Mais je pense qu'on s'est moi, j'avais vu David sur différents groupes Symbolic World un peu. J'avais déjà vu son nom. Puis là, tout d'un coup, à un moment donné, on s'est comme rencontré à la paroisse. Il s'est présenté au début. J'ai comme pas connecté. Puis là, je suis retourné à la maison. Je suis allé dans mes mails. J'ai dit, oh oui, j'ai déjà eu des connexions avec lui. Fait que c'était le fun de le rencontrer à la paroisse. C'est toujours pour moi excitant de rencontrer un Québécois qui s'intéresse à ces sujets-là. Alors, on est très content de l'intégrer. Il écrit des articles pour le site en anglais. Puis je sais qu'il est comme impliqué de différentes façons. Alors, c'est le fun qu'on se rejoigne ensemble un peu les Canadiens-Français.
Ouais, on se parle de
Ça
temps
me
en
fait...
temps. Vas-y,
Ouais,
David.
ben, c'est ça. Ça me fait plaisir d'être ici, puis de pouvoir continuer à aider en fait le blog puis la chaîne.
Ça va être bien aussi aujourd'hui parce que là, ce dont j'avais envie qu'on parle aujourd'hui, c'est l'histoire universelle. Puis justement, ben, David, il a fait une maîtrise sur l'histoire de la monarchie en Europe. Puis là, il étudie présentement sur le transfert de connaissances, disons, des milieux païens aux milieux chrétiens. Fait que ça va être bien pertinent pour le sujet d'aujourd'hui où. C'est quelque chose que les modernes n'ont pas trop en tête, là. Ça a été surprenant quand j'ai entendu parler de ça la première fois par Jonathan. L'idée que dans le monde médiéval, il y avait une synthèse historique de l'ensemble de l'histoire, là, en fait, d'une histoire universelle qui allait chercher l'histoire de Troie, l'histoire hébraïque, qui allait toutes les rassembler dans une synthèse. Puis là, tous les peuples en Europe, là, que ce soit les peuples du Nord, la France, la Bretagne, tout ça était comme rassemblés dans la même histoire. Puis, pour commencer à introduire ça, parce que c'est assez surprenant, disons, au niveau métaphysique, comment ça peut se passer qu'on puisse concevoir des histoires comme ça, où des peuples qui ont l'air d'être complètement séparés, mais qui se ramassent avec la même histoire. Ben, j'ai envie de prendre quelque chose de simple, là, puis d'assez proche de notre échelle humaine pour commencer, là, de comment est-ce qu'on va à la base, juste comme parmi une multiplicité de faits dans notre vie de tous les jours, comprendre c'est quoi le pattern derrière, qui lui peut être beaucoup plus simple que la multiplicité de faits. Fait que, par exemple, un exemple dont on a déjà parlé dans les premiers épisodes du podcast, c'était comment, si je veux comprendre c'est quoi l'intention de Jonathan, par exemple, à un moment, je ne vais pas commencer à aller regarder toutes les multiplicités de choses qui se passent dans son cerveau, dans son visage, puis tout ça, là. C'est le mauvais niveau d'analyse pour comprendre les causes profondes de qu'est-ce qui se passe, là. Je vais mieux d'analyser au niveau justement de son intention, qu'est-ce que Jonathan veut faire? Puis là, je vais être capable de déduire, ben, il est ici à cette heure-là, il veut nous parler de l'histoire universelle, des choses comme ça. Je suis capable de déduire son intention. Puis, je ne doute pas qu'il y a une manifestation précise de comment ça s'incarne dans les neurones de Jonathan, puis tout ça, mais ce n'est pas le bon niveau pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y aurait des milliards de configurations neuronales qui préfèrent la même job. Tu pourras avoir la multiplicité, toute une multiplicité de faits qui auraient le même pattern quand même. Puis ça se passe à différentes échelles de la réalité. C'est ça, même dans une journée. Si, par exemple, je passe une journée avec. Tu peux imaginer mettons, un couple là, qui passe une journée ensemble. Là, ils vont faire quelque chose. Ils comme, vont manger à telle place, blablabla. Il se passe un paquet d'événements. Puis à la fin de la journée, disons, ils vont se chicaner pour une raison ou pour une autre. Puis là, les deux, ils n'ont pas le même récit de ce qui s'est passé dans la journée. Puis ils ne s'entendent pas là-dessus. Les deux, ils ont les mêmes faits, la même multiplicité de faits de choses qui s'est passées dans la journée, mais ils n'ont pas. Le même pattern derrière, puis là, ça mène à un conflit, puis c'est en parlant, en fait, là, en essayant de rassembler leur histoire dans une seule histoire, qu'ils vont réussir à surmonter ce conflit-là. Puis la même chose s'est passée à des échelles sociales, puis d'échelles de civilisation, en fait, au complet, jusqu'à temps qu'on arrive à l'histoire universelle, comme on avait dans la Synthèse du Moyen-Âge. Et que, les gars, est-ce que vous trouvez que ça fait du sens comme donc, façon d'introduire le côté métaphysique de comment des histoires peuvent être condensées en quelque chose de plus en plus universel?
Ben, oui, je pense que la façon dont tu décris, c'est une bonne façon de le comprendre. Aussi, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi une notion qu'il faut, si on veut être en communion, il faut qu'on essaye de trouver un langage commun, tu sais, qu'on va parler pour pouvoir se comprendre. Puis, il semblerait que ce type d'approche-là, ou si je te parle, j'essaie de trouver un langage commun pour se comprendre, ça a plusieurs niveaux. Puis l'idée de se connecter à une histoire universelle, d'essayer de voir comment j'entre dans l'histoire, la généalogie de Noé ou dans la généalogie de Troie, mais c'est une façon aussi pour les peuples, quand ils se rencontrent, quand ils voient qu'ils vont entrer en communion, surtout quand ils se convertissaient au christianisme, ils voyaient qu'ils devaient comme entrer en communion avec tous les gens qui étaient dans ce bassin-là. À ce moment-là, il fallait négocier un genre de langage commun pour pouvoir s'unir ensemble. C'est quelque chose qui se faisait déjà avant, un peu, disons, de façon plus informelle. On peut voir dans les textes des Grecs ou des Romains, quand ils rencontraient d'autres peuples, ils essayaient d'analyser un peu, OK, leur Dieu, c'est quoi par rapport à nous? Disons, eux, ils adorent tel Dieu, c'est quel Dieu que nous, on a qui est le même? On peut voir qu'il y avait déjà ce désir de faire quelque chose de semblable, de trouver une façon de comprendre l'unité qu'on a de nature, disons, avec ces gens-là. Mais dans le christianisme, là, ça l'atteint, disons, une apogée où il y a vraiment un grand système qui se développe, qui prend, disons, qui fleurit. Disons, la plus grande floraison de ce système-là, c'est dans la Divine Comédie de Dante, où tu vois vraiment une image cosmique qui part, c'est une hiérarchie cosmique qui part du plus bas jusqu'au plus haut, dans laquelle il intègre tous les personnages importants de l'histoire universelle, que ce soit du côté grec, que ce soit Alexandre ou que ce soit quelqu'un, des personnages bibliques, même des personnages de la mythologie grecque se font intégrer dans cette grande hiérarchie-là qui est pas, qui sort pas de la tête de Dante. C'est pas lui qui a pensé ça par lui-même, mais c'est plutôt vraiment l'apogée d'un mouvement qui se développait depuis presque 1000 ans, là, au moins 800 ans. Hein.
Je pense que ça touche un des points importants, en fait, de la question. Tu sais, quand tu mentionnes, par exemple, Dante, on dit, c'est qui son guide en enfer? C'est Virgile. Là, le premier réflexe de quelqu'un qui ne connaît pas ça, ça va être de se poser la question, OK, pourquoi est-ce que c'est un auteur païen? Un auteur païen qui est un auteur de mythologie très important, en tout cas pour les Romains. Pourquoi est-ce que c'est lui qui serait le guide d'un auteur qui est chrétien, à proprement parler? Bien, c'est là que ça rentre dans l'aspect de synthèse, puis qu'il faut qu'on recomprenne, si on veut, le Moyen-Âge. Parce qu'on s'est beaucoup fait dire justement que le Moyen-Âge, c'était un système qui était fermé, c'est un système qui cherchait à exclure le plus possible, puis sans dénier le fait qu'il y avait une question aussi de gérer la marge, puis ça, tu en as déjà beaucoup parlé, Jonathan, puis on pourra en reparler encore, mais c'est qu'il y a surtout un projet d'intégration puis de synthèse qui se fait. Tu sais, Virgile, il n'y a pas juste Dante qui lisait au Moyen-Âge. Virgile, c'était les œuvres de Virgile, c'était les œuvres principales pour apprendre le latin au travers du Moyen-Âge. Ce n'est pas anodin. Quand on dit qu'un des textes principaux pour apprendre la langue qui était considérée comme la lingua franca, la langue la plus commune, c'était un auteur païen, ça dit déjà quelque chose sur le Moyen-Âge.
Oui, il y avait...
aller beaucoup plus loin aussi.
Puis son texte, l'Anéide, était utilisé. Il y a des exemples vraiment fascinants où le texte de l'Anéide était dans les églises, puis était utilisé comme un genre de texte que tu allais consulter, un peu comme quasiment comme un augure, là, où tu allais consulter le texte de l'Anéide pour recevoir comme un message personnel. Ça, c'était comme vraiment dans les églises médiévales. Mais ultimement, ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est sûr que par rapport à Dante, c'est un poète, les deux c'est des poètes, mais surtout que Virgile, il fait ce que Dante fait aussi, mais avant le christianisme. C'est-à-dire qu'il essaie d'articuler l'histoire romaine à l'intérieur d'une histoire universelle, ce qu'il avait reçu des Grecs. Il essaie d'articuler une histoire de continuité, disons, entre les différents peuples. Puis après ça, ce projet-là, on le voit continuer dans le christianisme avec jusqu'à la Divine Comédie, mais aussi dans d'autres peuples. Par exemple, on voit ça dans la légende arthurienne, on le voit dans l'écriture des mythologies nordiques. Sont aussi, les gens souvent, ils ne savent pas, mais tout le monde, quand on parle, toute l'histoire que vous savez sur les dieux Thor, Odin, puis les dieux nordiques, c'est des chrétiens qui l'ont écrit. Puis quand tu lis le texte, c'est intégré dans l'histoire chrétienne. Ils essayent de connecter ces dieux-là à l'histoire universelle quand ils la racontent.
Oui, puis en plus, des fois, ils vont faire le chemin inverse, qui est tout aussi intéressant, où est-ce que, par exemple, le meilleur exemple de ça, c'est l'Iliade, qui est un texte saxon, où est-ce que, dans le fond, ils se sont dit, OK, ce serait quoi la meilleure manière de présenter notre histoire universelle, donc l'histoire du Christ, comme clé d'interprétation principale de l'histoire universelle, comment est-ce qu'on pourrait la présenter aux Saxons dans le temps de Charlemagne? Fait que là, ils se sont dit, OK, bien, on va réécrire, dans le fond, comme un nouvel évangile, Puis celui-là, on va l'adresser spécifiquement aux Saxons. Fait que l'Iliade, dans le fond, c'est on présente Jésus comme étant un chef de guerre, en fait, mais un chef de guerre pacifique, que ses apôtres, c'est ses guerriers principaux qui le suivent. Là. C'est pareil dans la même mentalité saxonne. Puis ils repassent au travers des événements principaux. Ils reprennent certaines paraboles. Il y en a d'autres aussi qui viennent se rajouter juste pour permettre d'expliquer des idées chrétiennes justement aux Saxons et tout. Puis c'est là qu'on voit justement que ce procédé de synthèse-là, puis de communion, comme tu disais tantôt, entre des peuples, il se fait des deux côtés.
Oui. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a comme deux interprétations. Par exemple, tu sais, juste avant, David, tu parlais que souvent on perçoit le Moyen-Âge comme un système clos, fermé, qui veut exclure. Mais il y a aussi une autre perception du Moyen-Âge, la perception protestante, qui était que le Moyen-Âge était un temps de syncrétisme, de mélange, de confusion. C'est drôle, ces deux images-là, en fait, ils sont totalement contradictoires l'une avec l'autre. Mais la réalité, c'est que c'était les deux. C'est-à-dire que c'était un travail de synthèse. C'était un désir d'arriver au message chrétien qui était le plus authentique et le plus pur, mais de comprendre que ce message-là, par son universalité, devait pouvoir en même temps se manifester dans les petites choses, dans les détails, puis pouvait intégrer les aspects des peuples qui étaient rejoints par le Christ, finalement.
Ouais. Oui, puis l'aspect de synthèse que tu mentionnes est vraiment majeur selon moi, parce que le christianisme est dans une position historique, vraiment unique. Puis tu sais, là, on pourrait avoir toute une discussion sur l'aspect providentiel du christianisme. C'est comme les pères de l'Église ont beaucoup dit que le Christ est né dans la Pax Romana, donc dans la grande paix, dans le fond, mondiale à cette époque-là, de l'Empire romain, pendant le règne d'Auguste. Puis les pères de l'Église vont dire justement que c'est la Pax Romana était là pour amener la Pax Christi, donc la paix du Christ par la suite. Mais ça, c'est comme toute une discussion en soi, là, la question providentielle. Mais d'un point de vue plus historique aussi, comme je dis, le christianisme, au niveau de la synthèse, est vraiment dans une position unique parce qu'il est à la confluence de la structure romaine, qui était dans l'Empire romain, mais en même temps, dans une culture qui est très grecque, et dans une culture qui est aussi issue là, du monde hébreu, de la religion du Second Temple. Puis tous ces éléments-là, on les retrouve partout au sein du christianisme. Ce n'est pas comme s'il y en avait une qui était mise de côté ou quoi que ce soit. Tous ces éléments-là vont être pris en compte. T'sais, il y a une synthèse païenne qui se fait, comme on vient de dire, par exemple, au niveau de l'Iliade. Mais le système impérial aussi va être adopté par la suite. Puis ça, c'est très en lien avec la discussion que tu as eue récemment sur ta chaîne en anglais avec le docteur Mario sur Byzance et tout, au niveau de la philosophie, puis ainsi de suite. Mais aussi, justement, tout le travail qui se fait avec la religion du Second Temple, qu'on transfère ça vers l'Église comme la Nouvelle Jérusalem, comme la nouvelle héritière de tout cet élément-là. Puis toute la structure aussi... philosophique des Grecs aussi qui est adopté, les mots qu'on choisit, puis la manière qu'on organise, si on veut, la pensée. Mais même la synthèse va continuer par la suite, puis c'est une synthèse qui est symbolique. Quand que l'islam va arriver, il va y avoir aussi justement une synthèse qui va être faite avec l'islam. On parle de Dante depuis tantôt. Dante aussi va lire des textes qui proviennent de l'islam ou qui sont en lien avec ça, comme Averroès et tout ça. Mais même au niveau symbolique, la réalité historique de l'islam va être incorporée. Quand on regarde dans les pays slaves, leur croix orthoxe a le croissant
en dessous. Le croissant en dessous, oui.
Exact, pour montrer le fait que le christianisme survit puis va vaincre au final l'islam. Pas que je veux rentrer dans ce débat-là ou quoi que ce soit, mais mon point, c'est plus de dire que cette synthèse-là continue, se perpétue et n'arrête pas. Le christianisme continue de synthétiser les choses.
On commençait à parler des synthèses, puis ça vaudrait la peine de donner des exemples qui sont les plus percutants, là, disons, de ça. Là. Fait que pour commencer, peut-être le premier gros élément de synthèse, là, c'est comment on fait rentrer Alexandre le Grand dans l'histoire judaïque. Puis parce qu'il y a un paquet de légendes géniales là-dessus, là, où tu as un moment où quand Alexandre prend le pouvoir d'un empire, il va arriver à Jérusalem au temple. Puis là, l'histoire, ce serait qu'il y aurait eu des Israélites qui lui auraient montré la prophétie dans le livre de Daniel où il y aurait la montée de l'empire de Macédoine. Puis là, ce serait que Alexandre le Grand ce serait, aurait reconnu le Dieu d'Israël. Puis là, il y a un paquet de raisons qui font que c'est symboliquement très cohérent, cette histoire-là. De un, ben, l'histoire d'Alexandre est très religieuse. Il se décrivait comme un dieu là, et qui voulait essayer de devenir un fils de même des dieux de toutes les nations qu'il allait conquérir. Fait que c'est tout à fait comme normal qu'il serait allé voir le temple à Jérusalem. Puis aussi le fait que de reconnaître que le Dieu d'Israël, c'est l'unique Dieu, disons, c'est le plus grand de tous les dieux, mais c'est cohérent avec l'éducation philosophique qu'Alexandre a eue aussi de la part de son maître Aristote, avec l'idée du premier moteur. Fait que, là, c'est un exemple de comment on fait rentrer l'histoire d'Alexandre dans l'histoire d'Israël, puis l'histoire du christianisme par le même biais.
Oui, puis ce que les gens souvent ils réalisent pas, c'est qu'il y a des carrément dans ces traditions-là qui disent qu'Alexandre a déclaré l'unité divine. Ça a donné tout probablement une série de lettres qui sont légendaires entre Aristote et Alexandre, que Alexandre écrivait carrément pendant qu'il était en campagne, continuait d'être en communication avec Aristote pour donner l'impression qu'il gardait ce lien-là et de l'unicité de Dieu, mais aussi l'universalité de l'histoire humaine, un peu ce genre de vision-là. Puis c'est à cause de ça que Alexandre le Grand est dans le Coran. Souvent, les gens ne savent pas qu'Alexandre le Grand est dans le Coran, mais il est carrément vu comme un des prophètes qui a mené, disons, à l'islam. Mais cette vision-là était déjà là dans la vision chrétienne d'Alexandre. Puis Alexandre, la romance d'Alexandre, qui est comme le texte sur lequel toutes les légendes se sont accumulées, autour duquel les légendes se sont accumulées, le texte de la romance d'Alexandre devient l'exemple ou devient un peu le modèle pour toutes les romances de chevalerie plus tard. Puis la romance d'Alexandre devient comme un peu le centre de cette vision-là. On a tout oublié ça. C'est vraiment hallucinant comment on a pu oublier le fait que la romance d'Alexandre est un des textes les plus importants dans au Moyen-Âge latin, puis qui était vraiment un modèle pour les légendes arthuriennes, pour toutes les autres légendes, même les légendes de Charlemagne, la façon dont on concevait les chefs au Moyen-Âge était basée sur Alexandre le Grand.
Oui. Je pense que c'est important de dire aussi que c'est pas, disons, juste de mettre, disons, un étage symbolique superficiel par-dessus une histoire qui s'est passée. Il y a un vrai pouvoir causal dans cette histoire-là, parce que c'est vrai ultimement que Alexandre, en unifiant un paquet d'empires séparés, il a réussi à unifier Aristote puis le Dieu d'Israël, par exemple. Ça s'est passé, cette synthèse-là. C'est vrai qu'il a ramassé les deux peuples ensemble. Puis là, avec le temps, ben, c'est vrai que l'aristotélisme a été inséré dans les penseurs juifs puis les penseurs chrétiens aussi.
Oui, donc c'était une unité. Ça a commencé par une union un peu sale, là. C'était pas super propre au début, là, parce que, tu sais, il y a eu des scandales vraiment horribles. Ce qui a mené au Maccabée, c'était les empereurs après, les rois après Alexandre qui comprenaient pas le judaïsme, qui essayaient de mettre des dieux païens ou des images des rois dans le temple juif, là, qui faisaient que les scandales étaient de plus en plus grands. Mais malgré tout, disons, avec le mouvement de l'histoire, tu sais, d'un côté et de l'autre, finalement, tu arrives à cette synthèse-là. Qui est vu par les chrétiens, Alexandre était vu souvent par les chrétiens comme un exemple de la vertu humaine ou de la capacité de l'être humain, qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir, puis aussi en même temps la limite de ce qu'il est capable d'accomplir. Fait qu'Alexandre est vu étrangement à la fois un peu comme une image du Saint-Empereur, mais aussi une image de l'Antéchrist en même temps, un peu ces deux images-là qui se côtoient dans la vision de lui au Moyen-Âge.
Oui, puis je pense qu'un bon exemple de ça, c'est un texte du début du 14e siècle qui s'appelle « Les vœux du Pan » d'un auteur qui s'appelle Jacques de Longuyon, qui est devenu un texte hyper populaire au Moyen-Âge à cette époque-là, là, surtout en Occident, dans le fond. C'est un texte qui était un poème courtois qui avait été écrit pour un évêque. On a eu comme des quarantaines de manuscrits qui nous sont restés et tout. Ça a été distribué. C'était un poème, dans le fond, qui parlait du principe des neuf vertus, des neuf vertueux, qui étaient, dans le fond, neuf rois archétypes, si on veut, puis étaient divisés en trois catégories. Chaque catégorie avait trois rois. La première catégorie, c'était les rois de l'Ancienne Loi, donc les rois de l'Ancien Testament. Après ça, il y avait les trois rois païens puis les trois rois chrétiens. Puis ça, ce texte-là présentait ces neuf rois-là comme étant tous égales. Puis une des raisons pourquoi est-ce que je le mentionne aussi, c'est parce qu'Alexandre fait partie de ces neuf rois-là dans la catégorie des païens, aux côtés de Julius César puis de Hector. Hector le, de Troie.
Avec Jules César, pas César Auguste, Jules César.
Non, Jules César, oui.
Ah, intéressant.
Puis, dans le fond, les trois héros bibliques, c'est Josué, David, puis Judas Maccabée. Puis okay. Les trois héros chrétiens, c'est le roi Arthur, Charlemagne, puis Geoffroy de Bouillon, celui qui le premier à avoir libéré Jérusalem.
Jérusalem, oui.
Première croisade. Puis ce texte-là est devenu monumental. Puis même, il y a un paquet de sculptures puis de travail dans le bois aussi qui sont faits. Puis encore aujourd'hui, certaines églises, par exemple en France, on peut trouver encore les neuf vertus, tous sur des fresques ou peu importe. Mmh.
Puis c'est comme, je voudrais aussi, juste pour les gens qui écoutent, peut-être expliquer pourquoi que c'est important de regarder ça ou de comprendre ça. Parce que beaucoup de ces choses-là ont été... dénigrés par les historiens. Les historiens ont eu tendance à vouloir tout casser ces histoires-là parce qu'ils sont légendaires, parce que c'est des choses qui entrent pas dans le discours historique contemporain ou la façon dont on fait l'histoire en ce moment. Et puis, on peut comprendre pourquoi, parce que ça, c'est vrai que par rapport à ce qu'on conçoit aujourd'hui comme étant des façons de prouver historiquement qu'un événement est arrivé ou non, ça, c'est des choses qui n'arrivent pas à entrer. Mais l'importance de saisir ça, c'est plutôt de saisir, comme Jean-Philippe parlait, la façon dont l'unité se forme. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les différents peuples avaient vraiment le désir de démontrer leur unité à l'histoire universelle. Puis ils le faisaient quasiment, on pourrait dire, à partir des qualités de leur peuple. Fait qu'en le faisant, ils reconnaissaient aussi, c'était, et pas seulement les qualités au niveau positif, mais c'est-à-dire les caractéristiques, même les caractéristiques négatives de leur peuple. Alors, un exemple que j'aime utiliser, c'est que il y a des légendes hongroises qui disent que les Hongrois, ils sont les descendants de Nimrod, le roi qui a construit la tour de Babel. Parce que le roi Nimrod était décrit comme un chasseur, comme un géant, comme un homme très fort puis très puissant. Mais bon, cette association-là n'est pas particulièrement juste positive. Elle est en fait aussi assez négative. Mais on peut voir que dans l'espèce de conscience hongroise, dans leur conversion au christianisme, ils ont reconnu dans ce personnage-là une connexion à leur identité qui faisait qu'ils voulaient s'associer dans une causalité avec ce personnage-là. Alors, c'est très utile, finalement, ça devient très utile pour étudier un peuple de voir leur légende parce que la structure des légendes va te montrer peut-être encore plus quelle est l'identité de ce peuple-là plutôt que de juste tracer historiquement une sorte de généalogie physique ou de ramasser des morceaux de peau dans la glaise, là, de ramasser des petits morceaux de peau puis d'essayer de nous dire comment que les gens vivaient, comment ces peuples vivaient. Regarder leur histoire peut encore plus nous aider à saisir les identités des peuples, comment ces identités-là se joignent ensemble pour participer à ce pattern-là, à cette structure-là cosmique, on pourrait dire. Là.
Oui, ça ressemble à l'exemple que j'avais donné plus tôt là, de si tu ne t'entends pas sur ton histoire avec ton épouse, par exemple, de ce qui s'est passé dans la journée, là, ben, c'est pas une bonne idée d'essayer d'aller obséder sur les faits précis de ce qui s'est passé, par exemple, dans la tête de toi ou de ton épouse à tel moment ou de comme ce qui s'est passé à tel moment exact de la journée. Là. C'est plus efficace d'y parler, là, comme de voir, comparer vos histoires littéralement, là, de voir c'est quoi l'histoire qui vous a informé chaque jour, puis avec le temps. En travaillant, vous pouvez réussir à unifier les affaires. Fait que, mettons, si tu vas voir des Hongrois, puis là, tu essaies de comprendre leur peuple, de connaître leur légende, c'est vraiment utile parce que, de un, comme tu dis, la façon dont eux se comprenaient va être reflétée dans leur légende, mais aussi, une fois que tu as les légendes, une fois que les légendes sont dans un peuple, les légendes vont vraiment informer le peuple.
Oui,
ça va les former eux autres aussi. Les légendes ont un rôle causal. Là. De la même façon que, ton intention, là, toi, quand tu parles, ou mettons ton épouse dans la journée, là, peu importe, là, ben, vos intentions jouent un rôle causal sur ce qui se passe. C'est comme les faits sont influencés par vos intentions. Là. Tu bouges de telle façon parce que tu avais telle intention de faire telle chose. Fait que quand c'est pas, disons, comme si on pouvait mettre les légendes de côté puis aller étudier les faits précis. Là. C'est comme si je voulais comprendre ce que j'en ai entendu en regardant ce qui se passe dans son cerveau. Ce n'est pas efficace, ça ne fonctionnera pas. Si les légendes jouent un rôle causal puissant dans l'histoire des peuples, fait que ça vaut la peine d'aller les étudier. Là. C'est comme une confusion de niveau de réalité. Donc, on a déjà parlé que c'est un problème moderne de toujours vouloir réduire à la multiplicité. Mais que dans... ouais, tout ça pour dire qu'il y a, il y a de l'utilité. Ce n'est pas juste comme une curiosité d'aller comprendre l'histoire de des peuples et comment ils s'insèrent dans notre histoire.
Non, mais oui, que... vas-y, David.
Oui, dans le fond, j'allais juste dire, parce que aussi, c'est que les structures, toutes ces structures-là qui sont à l'intérieur des légendes, puis des mythes et des faits, c'est des structures qui, des fois, dépassent le seul fait ou le seul mythe ou la seule légende. Puis, il y a, comme tu disais, c'est qu'il y a une l'influence, elle est bidirectionnelle, dans le sens où est-ce que l'histoire vécue des gens, puis des événements qu'on pourrait dire historiques au point de vue moderne, au point de vue qu'on a des sources, puis il y a des chiffres, puis etc., qu'on peut comme parler là, dans les détails, a une influence sur l'aspect légendaire, l'aspect mythique, puis vice-versa par la suite. Puis le terme, même quand je dis le terme par la suite, c'est déjà faux hein, d'un certain sens, parce que ces structures-là, ils existent aussi. C'est un peu ça le principe, je pense, aussi de la chaîne et tout, mais ces structures-là, existent aussi, ces patterns-là, ces modèles-là existent aussi indépendamment de juste leur application temporelle, contingente. Puis, fait que c'est pour ça qu'il y a quelque chose à apprendre de cette histoire-là, tu sais. Puis peut-être aussi qu'il y aurait moins de conflits avec l'histoire moderne si on disait, au lieu de parler d'histoire universelle, on disait, mettons, les récits universels ou quelque chose comme ça. Comme ça, eux, ils ne se fâcheraient pas qu'on utilise le terme d'histoire, puis nous, on saurait de quoi est-ce qu'on parle. Puis,
oui, c'est ça. Mais... comme un exemple que je voulais dire, c'est que peut-être pour aider les gens un peu à saisir, disons, c'est quoi ce genre de truc-là. Tu sais, il y a des légendes d'Alexandre le Grand, par exemple, qui expliquent que lui, il a pris des genres de peuples monstrueux qui s'appellent Gog et Magog, des cannibales, des gens qui ont plein de sortes de vices, plein de sortes de trucs vraiment horribles, puis même souvent visuellement qui sont représentés comme genre d'hybrides humains, animaux et tout. Ce peuple-là, il s'appelait Gog et Magog. Puis il a fait un mur, puis il les a mis à l'extérieur de la civilisation. Il les a comme gardés à l'extérieur. Après ça, tu regardes des histoires de d'autres peuples, puis tu te dis, OK, bien, c'est intéressant parce que dans l'histoire légendaire de la fondation de la Bretagne, tu vois la même histoire où quand les gens arrivent sur l'île, il y a des géants qui s'appellent Gog et Magog, puis que ces géants-là, ils ont comme pris l'île. Puis pour fonder leur civilisation, ils doivent prendre les géants et les lancer dans la mer. Après ça, tu vas commencer à regarder, tu vas réaliser qu'en fait, cette histoire-là, de pour établir un peuple, il faut que tu crées une limite puis que tu dois garder ce qui est étranger à toi ou ce qui qui peut pas fonctionner dans ta vie. Il faut que tu gardes ça à l'extérieur de cette limite-là. Sinon, tu ne pourras pas fonder ton identité, peu importe c'est quoi ton identité. De simplement dire d'une histoire comme ça que c'est juste une légende, que c'est impossible, ça n'existe pas, des monstres, toutes ces choses-là, ça n'existe pas. C'est de manquer une qualité essentielle de c'est quoi fonder n'importe quelle identité, que ce soit ta maison, que ce soit ta famille, même toi, dire corporellement, tu dois mettre des vêtements pour garder ce qui n'est pas compatible avec toi, le froid, le trop chaud, T'sais, toutes ces choses-là, tu dois les garder à l'extérieur de toi. T'sais, tu ne peux pas manger du gazon, tu ne peux pas manger des roches. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles à ton identité, puis tu dois les garder à l'extérieur de toi parce que si tu essaies de les intégrer, comme exemple, manger des roches, bien, tu vas mourir carrément, t'sais, tu ne vas pas survivre. Alors, cette réalité-là, elle se manifeste à plein de niveaux. Puis dans les histoires, une façon d'expliquer, parce que des fois, il y a certaines choses qui peuvent être difficiles à dire de façon... De façon synthétique ou de façon simple. Parce que, disons, le fait d'établir un royaume puis de tranquillement éliminer les différentes choses qui ne fitent pas, puis tu sais, ça peut être extrêmement long, extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Mais de raconter une histoire comme, OK, il y avait des monstres, on les a mis à l'extérieur, on a fait un mur, puis là, on a réussi à créer une identité commune. C'est une façon que tout le monde reconnaît comme étant vrai à un niveau... qui est difficile d'expliquer. Alors, on ne peut pas s'en débarrasser parce que si on se débarrasse d'une histoire comme ça, à un moment donné, on va oublier de comprendre c'est quoi la fonction de ces histoires-là, puis on va se mettre à manger des roches. Là. Puis ça ne va pas marcher. On ne va pas comprendre pourquoi qu'on est en train de mourir parce qu'on est en train de manger des roches.
C'est bon. Je pense qu'on pourrait continuer de donner des exemples comme de creux, de, disons, de points importants dans notre histoire universelle. J'ai déjà parlé de justement d'Alexandre le Grand. J'aurais d'autres exemples, mais si vous avez comme certaines, parce qu'il y en a tellement, là, que je ne vais pas juste comme prendre tout le temps, là. S'il y a des points de l'histoire universelle dont vous, ça vous tente de parler, là, ben non, là, vous pouvez y aller, sinon moi j'en ai comme d'autres de près. Là.
Bien, il y a, disons qu'au niveau biblique, il y a peut-être deux connexions qui se font de façon très importante. Une, c'est la connexion avec Noé, parce que Noé, c'est comme le début de notre monde. Disons, il y avait comme un monde avant qui est parti, puis là, il y a une transition, il y a un nouveau monde. Puis on est comme, disons, en théorie, on est encore dans ce monde-là qui continue. Puis donc, les gens avaient tendance à vouloir se connecter avec Noé d'une façon ou d'une autre. Parce que les trois fils de Noé ont des caractéristiques particulières qui sont décrites comme, un peu comme des prophéties dans le texte. Puis c'est ça, c'est ce qui arrive, c'est qu'après ça, les gens avaient tendance à vouloir catégoriser les peuples selon les prophéties qui étaient dites dans ce texte-là. Puis ça semble suivre les lignes linguistiques du monde. Là. Les descendants de Shem, ben, c'est les descendants sémites. Les descendants de Japheth, ben, c'est les Indo-Européens. Il y a comme des séparations de base que les gens ont voulu se faire. Puis des fois, pour les peuples qui avaient de la difficulté à se placer, même ils osaient même, par exemple, il y a des légendes qui disent que les peuples nordiques étaient les descendants d'un quatrième fils de Noé qui était né sur l'arche, puis qui était comme un peu monstrueux, qui était un petit peu comme un genre d'intermédiaire entre deux mondes. Puis là, c'est là aussi que tu peux voir que là, c'est comme si les peuples du Nord reconnaissent une caractéristique qu'eux, ils ont, qui n'est pas nécessairement positive, c'est l'espèce de fureur qu'ils ont, l'espèce de violence qu'ils ont apportée à l'Europe. Puis ils veulent la retracer jusque dans l'arche de Noé. Alors ça, c'est une des lignes. L'autre ligne, c'est carrément jusqu'à Caïn aussi, puis à Abel. Étrangement, ça, c'est même avant l'histoire de Noé. Mais par exemple, toutes les légendes des monstres aussi, souvent, ils vont vouloir reconnecter les monstres qui sont dans les différentes histoires jusqu'à Caïn, jusqu'à les descendants de Caïn. Alors, on voit ça dans Beowulf, par exemple. Beowulf, le Grendel dans Beowulf et sa mère, ils sont vus comme des descendants de Caïn.
Je ne l'avais jamais entendu, celle-là. Comme, fait que l'idée, ce serait que ouais, c'est d'associer les monstres à, disons, la première abomination. Là, à...
Ouais.
Ouais. OK.
Puis. Excuse-moi, vas-y.
Oui. Dans le fond, juste pour revenir justement sur cette question-là de généalogie, c'est quelque chose aussi qui est important dans beaucoup de peuples. Puis là, tu sais, si on ouvre encore plus large que le christianisme, partout dans le monde, la généalogie, c'est extrêmement important, savoir de où est-ce qu'on vient, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça et tout. Puis justement, de se placer dans une généalogie, ça a un rôle important. T'sais, on peut le voir de différentes manières. T'sais, d'une part, par exemple, il y avait l'arbre de Jessé, là, qui est un thème important, surtout au Moyen-Âge, où est-ce qu'on va parler justement à partir de Jessé jusqu'à Jésus, puis qu'est-ce qui est aussi dans les autres branches périphériques et tout, de montrer cet élément-là de généalogie. Puis ça, on peut le voir spécifiquement, par exemple, dans les évangiles. Parce que les évangiles, ils commencent, ben, deux des évangiles commencent avec, par exemple, des généalogies. Il y a beaucoup de monde, des fois, parfois, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on présente deux généalogies, puis pourquoi est-ce que les deux sont, entre guillemets, différentes. Là. Mais il faut comprendre la raison, puis c'est... Je pense que c'est un très bon exemple pour montrer ça, puis montrer aussi pourquoi est-ce qu'au Moyen-Âge, après ça, il y a plein de gens qui vont faire des généalogies avec Noé ou Caïn ou peu importe. C'est que chacun des deux évangélistes ne présente pas une généalogie qui est différente. C'est juste qu'ils veulent mettre l'emphase sur un élément différent. Tu sais, dans Luc, la généalogie va commencer à partir de Adam pour justement montrer que le Christ vient récapituler l'humanité. Donc, c'est un nouvel Adam, en fait, qui est né. Puis, quand on regarde l'autre généalogie, c'est Matthieu, c'est pour montrer justement le lien qu'il y a avec Moïse, avec Abraham, Abraham, Moïse, puis David. T'sais, c'est pour montrer justement le fait qu'il est dans la lignée des grandes figures, si on veut, de ce peuple-là et tout. Puis justement, tout le long du Moyen-Âge, après ça, on va avoir de ces attributions-là. Il y a des gens qui vont dire, moi, mon ancêtre, c'est par exemple le roi Arthur ou Charlemagne ou ainsi de suite. Puis que ce soit journalistiquement vrai ou non, ou tu sais, généalogiquement vrai ou non, c'est pas vraiment ça le concern de ces gens-là. Parce que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils veulent se placer à l'intérieur de quelque chose pour montrer un point important de leur conception du monde, puis surtout de leur, de, pas juste leur conception du monde, mais leur conception de leur position dans le monde. Qui les entoure. Ça, je pense, c'est un des éléments importants de l'histoire universelle qui est très important à mentionner, c'est que les gens du Moyen-Âge, par exemple, parce que c'est surtout là-dessus qu'on focus pour l'instant, ils savaient qu'ils étaient des participants de l'histoire, autant au niveau du passé, du présent que du futur. Okay? On ne peut pas juste être des observateurs. De l'histoire 100% pure, c'est complètement externe et tout, ça n'existe pas. On est toujours des participants. Ouais. De l'histoire. Puis justement, ce que les historiens, si on veut, de l'histoire universelle, traditionnelle, tu sais, du Moyen-Âge, essayaient de dire, c'est que peu importe si journalistiquement, tu sais, j'utilise ce terme-là en sens de voulant dire qu'on n'a pas là, de vidéo qui prouve qu'un tel était descendant d'un tel, mais tu sais, journalistiquement, si une chose, peu importe si la chose s'est produite, le modèle, le pattern, la structure, elle s'est produite. Okay? Puis elle s'est produite, puis voici dans ma narration comment est-ce que je vous le décris qu'elle s'est produite. T'sais, dans le fond, c'est l'historien universel qui dit, c'est dit, je déploie devant vous un pattern pour que vous puissiez le voir puis le comprendre, que les détails ou non sont importants. Puis, d'ailleurs, Paul Vanderclay, qui avait commenté ton vidéo, Jonathan, que tu avais faite en anglais sur l'histoire universelle, il avait dit que, dans le fond, comprendre un récit qui se déploie dans l'histoire, c'est surtout pour s'y intégrer en tant que personne. T'sais, c'est pour s'y intégrer aussi même en tant que nation. T'sais, ça permet de se positionner. Quand on raconte un récit, surtout un récit universel comme ça, c'est pour prendre position, c'est pour accepter notre place dans ce récit cosmique-là.
Oui, ça, au lieu de juste une espèce d'idée d'un intérêt abstrait qu'on a d'un point de vue qui est plus dans l'histoire. Là, souvent, les gens ont tendance à approcher l'histoire comme ça, comme si on était à l'extérieur, puis là, on regardait des faits qui se sont passés avec un genre d'intérêt un peu pervers, là, comme ça, c'est intéressant, mais comme si tu ne veux pas comprendre que c'est ce qui t'a fait, là, carrément ce qui t'a construit jusqu'à aujourd'hui. Là. Mais l'autre aspect, disons, de l'histoire universelle, bien, peut-être un autre aspect chrétien qu'il faudrait mentionner qui est important, c'est la participation des saints. Là. Aussi, beaucoup les apôtres, les premiers saints, les premiers évangélistes, les premiers martyrs, c'était aussi des façons de se placer. Surtout les peuples qui étaient un peu plus loin, tu sais, l'idée de saint Thomas, par exemple, qui est allé jusqu'en Inde, ou l'idée de qu'il y a un des rois mages qui est retourné en Éthiopie. Il y a plusieurs légendes comme ça qui essayent de raconter comment les peuples sont connectés avec cette histoire chrétienne universelle-là, qui se développe de différentes façons. Puis finalement, c'est ça, pour dire que c'est une histoire universelle, c'est aussi la connexion à Troie. Surtout l'Europe, tout ce qui est l'Europe occidentale et aussi tout ce qui est l'Est, de l'Europe de l'Est qu'on appelle, il y avait toute une façon de se connecter à l'histoire de la guerre de Troie. Souvent, les gens ne réalisent pas que les Romains se voyaient comme les descendants des Troyens, que, pas seulement les Romains, mais que le roi Arthur est un descendant des Troyens. Puis même, comme j'ai dit quand on parlait des dieux nordiques, que quand Strawson y écrit son Edda, il met les dieux nordiques comme aussi des rois troyens. Alors, il y avait vraiment ce désir-là de se connecter au moment où l'Europe, un peu l'idée de dire que l'Europe est née dans la guerre de Troie, l'union des peuples grecs, mais aussi le conflit entre l'Est et l'Ouest en Europe était déjà comme installé. Puis tranquillement, on voit cette histoire-là comme étant la racine de l'identité européenne. Puis, comme j'ai dit, tout le long du Moyen Âge, les gens comprenaient que l'idée de l'Europe, c'est pas donné. T'sais, c'est pas quelque chose qui existe juste comme ça. Il faut participer à son histoire, sinon elle va disparaître. Puis, tu sais, c'est pas pour rien aussi que là, on sent que l'Europe est sur le point de disparaître, parce qu'ils n'ont aucune façon de formuler leur existence dans une histoire ancrée ou dans une vision mythique de leur existence. Alors, à ce moment-là, ils savent même pas comment décider même quel pays est dans l'Europe. Ils n'ont aucune façon, c'est tout arbitraire finalement. Mais malgré ça, il y a un fantôme de cette histoire-là qui est toujours là, tu sais, qui est toujours présente. Puis de la redécouvrir, puis de revoir, d'être fasciné par le fait que le roi Arthur soit un descendant de Troie ou qu'il y a un lien entre le roi Arthur et Constantin qui sont dans les légendes, on dit qu'ils viennent des mêmes familles. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à voir c'est quoi cette identité-là.
Un détail que j'aimerais utiliser là, pour montrer comme la force de ce lien-là, c'est spécifiquement pour... On a ça, je pense que c'est là dans l'Iliade, puis là aussi dans l'Énéide de Virgile, là, c'est comment spécifiquement Aîné, qui est comme un noble de la ville de Troie, va aller fonder, en fait, il ne va pas fonder, mais va comme devenir le roi des Latins, puis après ça, ça va fonder Rome, puis un paquet d'autres choses en Europe. Mais c'est que c'est pendant la guerre de Troie, quand Troie est en train de perdre, en train de s'écrouler. Puis il faut voir ça aussi comme, tu sais, c'est la chute de Troie, mais aussi la chute de l'âge de bronze, là, comme c'est la fin d'une ère, en fait. Là. Puis pendant ce moment-là, ben, Aîné va se sauver de Troie. Tu vois, on se rappelle, c'est comme un des nobles, un des rois de Troie. Il sauve, puis là, dans sa fuite, il transporte son père sur son dos, puis il doit laisser sa femme derrière lui. Fait que t'as l'idée qu'il apporte le pattern, comme il apporte son ancêtre, il apporte son information de Troie, là, comme de l'ancien monde, puis il laisse son potentiel, il laisse sa femme derrière.
Ouais, il laisse sa terre, dans le fond. Il va trouver un nouvel endroit pour fonder une famille, fonder un monde. Là. Puis même que le fait de mal choisir ou de mal se connecter avec des gens, ben ça crée, tu vois, comme le fait qu'avec la reine de Carthage, qui est la fondatrice de Carthage, le fait qu'il y a comme cette relation-là avec elle devient comme une sorte de début mythique au conflit entre Rome et Carthage, qui finalement amène carrément à la destruction de Carthage. Fait que, dans l'histoire de l'Anéide, il y a ce souvenir-là du danger. Puis comment que, même c'est eux, c'est les Romains qui ont détruit Carthage, puis il y avait comme une sorte de... Il y avait une certaine honte même d'avoir fait ça, mais ils sont prêts à se raconter cette histoire-là pour comme se rappeler et du côté positif et du côté négatif de c'est quoi l'identité. T'sais, dans ces histoires-là, dans ces grands romans épiques-là, il n'y a pas du tout une sorte de vision simpliste du monde. Il y a vraiment une capacité d'entrer dans la complexité de l'identité, mais aussi du problème de l'identité puis des opposés. Puis c'est comment tu peux t'identifier avec ton ennemi, même dans le conflit que tu as avec eux. Là. Mais c'est clair que cette vision-là, tu sais, de Aîné qui porte son père, c'est devenu comme une image de la tradition elle-même un peu. Là. Puis même dans la vision chrétienne, il y a, cette image-là revient même dans l'histoire chrétienne.
Oui, puis tu sais, on peut même continuer là, la lignée de Troie, là, parce que on va se rendre loin, je pense, si on commence avec Troie, puis on continue. Mais tu sais, comme justement, on mentionnait le fait que, tu sais, Jonathan, tu mentionnais le fait que ces histoires universelles-là, ces récits-là sont capables de mettre autant le positif que le négatif dans une histoire commune, c'est dans un récit. Puis ça, on le voit justement quand on continue justement notre lancée, tu sais, parce que... Aîné va arriver en terre italique, puis il va avoir justement des relations avec les rois qui sont là et tout, puis il va finir par faire des alliances, un mariage et tout, puis il va fonder un royaume. Puis plus tard, de ce royaume-là, va naître Rémus et Romulus, qui vont fonder Rome. Puis justement, dans la fondation de Rome, on pourrait peut-être en parler si tu veux, mais il y a la question aussi de déterminer les limites de la ville qui sont extrêmement importantes, où est-ce que justement... ils vont fonder une limite sacrée là, qui appelle le pomerium, qui vont déterminer, ils vont dire ça, c'est la Rome sacrée, si on veut, c'est là qu'on peut fonder notre territoire. Puis dans cette détermination-là des limites, il va y avoir un conflit entre les deux frères. Puis un des deux frères jumeaux va être tué par l'autre. Puis ça va être conservé dans la tradition, ce meurtre fratricide-là, le fratricide n'étant pas quelque chose de positif pour les Romains, mais ça, ils vont quand même le garder, puis ils vont quand même s'en servir même plus tard pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a autant de guerres civiles. Comme cet aspect-là du mythe, par exemple, va revenir de plus en plus important quand on va approcher les guerres civiles, la fin de la République et tout, où est-ce que les gens ils vont se dire « Ah, mais vous voyez, depuis le début de Rome, on a des problèmes de fratricide. » Mais il y en a d'autres qui, au contraire, vont dire non, mais il y a d'autres manières de le comprendre, etc., etc. Puis c'est là que ça permet même aux gens, justement, de, entre guillemets, d'exorciser leurs propres démons, de mettre par écrit, en récit, des éléments qui peuvent être problématiques aussi de leur propre histoire.
Oui. Puis cette image-là du fratricide puis de la fondation de la ville, elle retrouve son miroir dans l'histoire biblique carrément, parce que dans l'histoire de Caïn, on a la même histoire où Caïn tue son frère. Puis après, fonde la première ville de l'histoire de l'humanité, finalement. Alors, il y a comme un côté vraiment négatif à la civilisation qui est tracé dans l'histoire universelle, et du côté de Rome, et du côté chrétien, ou du côté ancien. C'est souvent quand je dis aux gens que même les chrétiens étaient carrément capables de saisir, par exemple, que dans l'eschatologie chrétienne, Rome était à la fois la pute puis à la fois la Nouvelle-Jérusalem en même temps, à la fois la bête, la Nouvelle-Jérusalem, et la prostituée, toutes ces choses-là, on était capable de comprendre le problème de la civilisation, le problème de l'identité, comment l'identité peut être tyrannique, comment elle peut tomber dans la déchéance, mais comment ultimement, à travers tout ça, il y a quelque chose qui peut s'établir, qui est comme un genre de royaume équilibré, une paix du royaume. Puis ça, c'est vraiment fascinant de voir que finalement, que l'histoire de Caïn qui tue son frère pour fonder la première ville se fait ramasser par l'histoire de Rome qui est basée sur le même type de mythe, puis que c'est Rome qui devient l'image du christianisme, et dans l'Est et dans l'Ouest, que ce soit Rome ou Constantinople, qui tranquillement s'en va vers l'image de la Nouvelle-Jérusalem, qui est comme la résolution du problème de Caïn dans l'histoire biblique, où le jardin et la ville sont ensemble. Dans une image totale. Fait que c'est intéressant de voir que, tu sais, à cause que ces structures-là sont universelles, on peut voir que les mythes s'entrecroisent dans leur façon de parler des choses, parce qu'ils sont en train de parler des vraies choses, des vrais problèmes de l'identité, le vrai problème de la communauté, toutes les communautés exclues. C'est une des caractéristiques d'une communauté. C'est nécessairement parce qu'on se rassemble ensemble, on doit exclure ce qui n'est pas dans notre communauté. Et ça, c'est super positif, mais c'est aussi super négatif. Il faut être capable de trouver l'équilibre entre les deux, sinon on est en danger, on est en danger de guerre, on est en danger de plein de problèmes ou de guerre civile aussi, à cause du problème de l'identité, disons.
C'est excellent. On pourrait continuer à parler de ça pendant tout le temps, parce que c'est
littéralement... Est-ce que ça finit jamais, finalement?
C'est littéralement l'histoire universelle, là. Mais,
oui, c'est ça.
Fait qu'à moins que vous aviez quelque chose que vous voudriez acheter tout de suite, je pense que ce serait une bonne conclusion quand même pour l'épisode qu'on vient de faire. Là. On a comme expliqué c'était quoi l'histoire universelle, comment c'était comme possible là, d'un point de vue métaphysique, comment on peut faire sens de ça, même si on vient d'un monde moderne. Puis on a donné des exemples pertinents là, pour nous placer, nous, dans cette histoire-là.
Je pense que ça va prendre une partie 2 pour parler de Constantin, parce qu'on n'a même pas
mentionné Constantin. C'est vrai qu'on a parlé de Constantin. Puis en plus, c'est sa fête demain.
C'est demain, c'est son...
C'est la fête de Constantin.
C'est la fête de Constantin demain, puis de Sainte-Hélène. Donc, ça va prendre une partie numéro 2, je pense.
Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait faire, en tant que francophone, il faudrait faire Constantin, puis faire au moins Charlemagne. Juste pour montrer, tu sais, parce que tu sais, c'est sûr que nous, disons, moi, en tant qu'orthodoxe, il y a comme une vision très négative des Francs. Puis, tu sais, je peux comprendre pourquoi, mais Charlemagne aussi va vraiment être un personnage qui est devenu très mythique au Moyen-Âge, puis qui a fait des choses qui sont difficiles à concevoir de la grandeur des choses qu'il a accomplies. Fait que ça peut être intéressant de le regarder dans son aspect mythique, là, même l'image du vieux roi de 300 ans. Là, tu sais, il y a vraiment des images incroyables de Charlemagne où on voit qu'il était compris vraiment comme un personnage mythologique quasiment, là.
Ça serait vraiment cool. J'aimerais vraiment ça. En plus, c'est moi le catholique là-dedans, puis je ne la connais même pas, l'histoire de Charlemagne. Là. Puis vous deux, vous la connaissez très bien. Là. On se fait un épisode 2 sur Charlemagne puis Constantin, ça va être cool.
Génial.
Parfait. Merci tout le monde. À la prochaine.